Bonjour Arlette.
Bonjour Benjamin et bonjour à tous ceux qui sont in et pas off aujourd'hui.
Effectivement, vous m'avez pris sur un abus de langage, d'anglicisme d'une certaine façon. J'aime pas ça en général. Vous avez raison de le noter, ma chère Arlette. En tout cas, plus que 5 jours de campagne pour les élections législatives et on assiste depuis quelques jours au réveil de la majorité. Emmanuel Macron qui est sorti de son silence notamment et qui désigne un adversaire, l'adversaire finalement, Jean-Luc Mélenchon, à la tête de son alliance de la gauche, la NUP.
Alors, moi aussi, je vais faire un peu de franglais ou d'anglicisme. Allez-y, on va faire un petit flashback, d'accord? Souvenez-vous, c'était très loin, le discours d'Emmanuel Macron à Marseille, le 16 avril. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron drague ouvertement les électeurs de gauche, et notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon, avec un thème central dans le discours, l'écologie. Le président candidat reprend l'expression « planification écologique », clame que son quinquennat sera écologique ou ne sera pas et que le second tour de la présidentielle est un référendum pour ou contre l'écologie. Vous vous souvenez de l'affiche du second tour, pour ou contre donc Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon avait dit pas une seule voix pour la présidente, ex-présidente du Rassemblement national. Bah, il s'agit donc de récupérer le maximum de voix d'électeurs ayant porté l'insoumis jusqu'aux portes du second tour, justement. Alors bien sûr, aujourd'hui, les macronistes dénoncent toujours les deux extrêmes, Mélenchon et Marine Le Pen, qui incarnent, selon Emmanuel Macron, le désordre et la soumission notamment à l'égard de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est ce qu'il dit dans son interview à la PQR en fin de semaine. Hier, une ministre dénonçait les jumeaux de la peur, mais on insiste et on montre du doigt, surtout Jean-Luc Mélenchon, communautariste, autoritaire. Bruno Le Maire parle d'un Chavez gaulois, Hugo Chavez, l'ancien leader du Venezuela, plutôt dictateur que démocrate. Un programme qui conduirait la France à la faillite. Un programme qui contient 20 fois le mot taxation, 30 fois le mot interdiction. Ça ne va pas rendre les gens fous, ça, demande Emmanuel Macron, toujours dans la même interview à la presse régionale. Alors que s'est-il passé en un mois et demi? C'est extrêmement simple. Le président voulait que la situation politique se décante. Elle s'est décantée. Il y a eu le coup médiatique de Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre, le coup politique réussi, l'alliance des partis de gauche après la reddition des socialistes, des verts, des communistes derrière les insoumis. L'adversaire de la majorité est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Les duels entre les candidats de la majorité et ceux de la gauche seront très largement majoritaires aux législatives et donc la stratégie est la même que pour l'élection présidentielle, susciter un vote de rejet, un vote de peur face à l'hypothèse d'une victoire des candidats de Jean-Luc Mélenchon.
Bon, ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon rêve d'une cohabitation avec Emmanuel Macron. Vous avez parlé de son interview à Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale en fin de semaine. Le président de la République qui parle de politique fiction, qui affirme qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon à Matignon en cas de victoire. Aucun parti, dit-il, ne peut imposer un nom au président. Est-ce qu'on peut imaginer, Arlette, une cohabitation Macron-Mélenchon? Et le président pourrait-il refuser la nomination de Mélenchon?
Alors, il faut d'abord dire quand même qu'aucun sondage, aucune enquête d'opinion n'évoque la possibilité de victoire totale, une majorité absolue pour les candidats de gauche et donc une défaite cinglante de la majorité sortante. Tout juste pourrait-elle avoir une majorité relative. Mais rentrons dans cette hypothèse de politique fiction. Emmanuel Macron dit qu'il refusera de nommer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais il y a des exemples dans le passé de véritables cohabitations. On se souvient d'un François Mitterrand qui, lui aussi, en 86, ne voulait pas choisir Jacques Chirac et le nommer à Matignon, le leader du RPR. Finalement, il a bien été obligé, de même que le même Jacques Chirac, mais devenu président pour une troisième cohabitation, avait choisi Lionel Jospin, le leader des socialistes. En revanche, vous l'avez dit, il refuse cette hypothèse de cohabitation dans laquelle le président de la République, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, lui, s'installe et multiplie les propos rassurants. Il disait même hier que son programme économique, bien sûr, serait appliqué s'il était nommé Premier ministre, mais qu'en revanche, sur la scène internationale, la France ne parlerait que d'une seule voix. Vous l'avez compris, l'un inquiète, l'autre rassure. ils ont quand même un souci partagé, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, l'abstention qui pourrait atteindre des records dimanche prochain.
On en parlera d'ailleurs avec notre invité politique, Manuel Bompard, qui sera avec nous à 8h15. Merci à vous, Arlette Chabot. On vous retrouve bien entendu dans les débats du Grand Matin à partir de 8h45 avec vous, 0826 300 300, avec Éric Revel qui sera avec nous également à partir de 9h. Je vous parlais du standard 0826 300 300. Bon, on y fait un tour justement tout de suite. Avec 7h42. C'est Abdelhak qui est avec nous ce matin de Mont-de-Marsan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez parler, je crois, notamment des élections législatives, c'est ça ?
Ben, j'allais pas parler de la défaite du Salement de Toyer, non, ça c'est sûr que. Donc je préférais parler politique.
Effectivement. ça peut être un autre sujet aussi, effectivement.
Ouais.
Mais bon,
c'était mérité.
Vous avez regardé ?
Oh oui, il n'y avait pas photo. C'était... J'étais même au stade à Montpellier quand même pour aller voir, par respect déjà.
Bon,
ils étaient supérieurs, il n'y a rien à dire. Comme en politique d'ailleurs. Monsieur Macron par rapport à Monsieur Mélenchon, il n'y a rien à dire non plus. Si j'ai beaucoup à dire dessus. Ben, en fait, la question, elle est... déjà, il y a 2 mois, je suis pas voyant. J'ai aucune carte de voyance et je suis plutôt cartésien. Mais j'avais déjà dit que les Français étaient plutôt feignants dans l'électorat et que c'est pas un scoop que de dire qu'on va se retrouver exactement la même teneur, la même quantité de votants que lors des régionales. Donc il y aura, je vous dis tout de suite, et je mets presque mes 2 bras à couper, il y aura les 35% de citoyens français assez sérieux pour aller voter, sachant que c'est quand même important de voter pour les législatives.
Donc voilà. Pour l'instant, sur les sondages, on parle d'une participation autour des 48%, mais en dessous des 48%, donc on serait sur un record effectivement d'abstention.
Oui, mais ça c'est certain. Mais enfin, ils annoncent souvent ça pour les présidentielles. Les gens se font plaisir parce que voilà, c'est le vote. Il suffit d'une seule idée pour aller vers tel ou tel candidat. C'est pour ça que l'extrême droite fait bien son jeu ou l'extrême gauche. Il suffit de dire qu'il y a la retraite à 30 ans, le SMIC à 2 000 euros ou 3 000 euros, il suffit de déblatérer quelque chose de quasiment impossible. Rien d'assis en tout cas pour qu'un citoyen vote, parce que c'est le vote le plus simple et le plus excitant pour les Français.
Vous avez parlé des Français à la fois feignants, c'est quand même assez lourd de dire ça. Est-ce que c'est parce que y a de la feignantise, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un certain désintérêt de plus en plus prononcé la politique ?
Parce que j'ai pas peur de dire que la majorité des Français ne connaissent absolument rien à la politique. Faut faire un certain travail personnel.
Ça prend du temps de se renseigner aussi sur les programmes.
Voilà, étudier les projets, c'est un travail. Voilà, il faut un minimum de connaissances, il faut des acquis, économiques.
Il faut du temps aussi.
Et puis après, il faut savoir, il faut se servir aussi des différents. Il ne faut pas avoir la flemme de lire certains programmes. Même il y a il y a plein de chaînes d'information qui parlent du vrai et du faux. Voilà, il faut prendre le temps et avoir envie. Donc forcément, c'est un métier. C'est pour ça que.
Il y en a qui travaillent aussi à côté. C'est peut pas être un métier à temps plein pour tout le monde.
Vous savez, un pays qui ne vote
c'est
pas,
compliqué.
C'est un pays qui ne... Tant qu'un peuple ne meurt pas de faim et de soif, il n'y a aucune obligation d'aller voter. Voilà, les pays qui sont le plus intéressés par le vote, c'est les pays pauvres. Mais le reste, ils s'en désintéressent. En dehors de la présidentielle qui existe un peu, le reste, ils s'en foutent complètement parce qu'il y a des acquis qu'ils ont. Regardez, il y a une crise économique avec la pandémie et tout. C'est pas grave. On a quand même trouvé des solutions. On a été chercher de l'argent là où il n'y en avait pas. Et puis, tout le monde a pu avoir son émotion sociale, du plus pauvre au plus riche. Voilà, tout le monde y a gagné.
Avec des crises encore, effectivement.
Comparé aux États-Unis, il n'y a personne en France qui a perdu sa maison suite au Covid. La pandémie. Il faut être réaliste. Personne ne va remercier.
C'est vrai qu'il y a eu des aides. Non, mais ça, vous avez raison. Pour le coup, sur les aides qui ont été mises en place
partout.
Face au Covid, oui.
Tous les entreprises, les publics particuliers. Moi, j'ai pas eu de bol parce que je faisais partie des secteurs d'activité qui avaient le droit à aucune aide et qu'il fallait même rester ouvert. J'avais une station-service, par exemple, les personnes ne roulaient pas.
Ouais.
J'avais le droit à rien du tout. J'avais le droit absolument rien parce que je faisais partie des métiers qui devaient rester ouverts. Mais comme les gens étaient chez eux, je ne consommais pas. Donc en fait, je devais continuer à travailler sans client. Voilà, c'est des métiers comme ça, comme aujourd'hui la restauration, où les gens ont moins de pouvoir d'achat très certainement et qui sont obligés de maintenir leurs salariés tant qu'ils pourront. Parce qu'on leur redit, oui, mais vous avez touché du fric avant, donc ne vous emmerdez pas maintenant. Ça c'est compliqué. En tout cas, pour revenir à l'impossibilité d'avoir M. Macron et M. Mélenchon,
ouais.
C'est vraiment... mais c'est mission impossible. Vous pouvez pas avoir quelqu'un qui est à l'extrême gauche. J'ai été écœuré, moi je suis plutôt de gauche, vous voyez, je suis un centre-gauche par définition, et je suis plutôt sidéré et très très déçu par la gauche, les autres sphères de la gauche, enfin ceux qui se disent à haute sphère, qui n'ont pas hésité une seule seconde à se mélanger avec l'extrême gauche. Voilà, je trouve ça aussi pourri et dégueulasse. Alors mathématiquement c'est génial parce que ils font un espèce d'assemblement, mais au-delà de la législative, il n'y aura plus rien entre eux. Ils vont se redégoûter, redétester, rehaïr, parce que c'est impossible.
Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de désunion encore malgré cette union de façade, ça c'est clair.
Mais vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est buté, quand vous ne pouvez pas discuter un bon match de football, c'est quand il y a deux bonnes équipes. Si vous en avez un qui n'écoute pas l'autre ou qui joue très très mal, vous faites un match de merde, c'est évident. Et là, vous voulez mélanger des gens où il n'y a pas le même niveau de raisonnement. Regardez, rien que l'extrême gauche... Les gens de centre-gauche, c'était impossible de pouvoir voter à l'extrême droite.
Oui, et puis
les
alors, c'est sur la question, notamment pour donner juste un domaine, sur la question du nucléaire, c'est vrai qu'ils sont loin d'être tous d'accord, ça c'est sûr. Abdelhak, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, voilà, entre sport, allusion au sport et puis politique, bien sûr, vous nous appelez de Mont-Marsan. Merci à vous Abdelhak et très belle journée à vous. 7h46 sur Sud Radio, restez bien avec nous. Dans un instant, Sud Radio vous explique, on parlera du chèque alimentaire annoncé et réannoncé par le gouvernement. Qu'en est-il ? Encore pas mal de zones d'ombre. En tout cas, des députés demandent ce qu'ils visent. Ils ciblent avant tout les produits sains. On en parle dans un instant sur Sud Radio avec un député MoDem du Loiret. A tout de suite sur Sud Radio.